SEMcast, les podcasts du SEM.
Service, école, médias.
SEMcast,
votre rendez-vous numérique et pédagogique.
Bonjour et bienvenue pour cet entretien du SEM. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir Elena Pasquinelli. Alors on va la laisser se présenter elle-même, ce sera plus simple.
Donc je suis membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. En France, je suis philosophe de formation et j'ai toujours travaillé dans le domaine de la philosophie des sciences cognitives avec les applications possibles au monde de l'éducation et en particulier à l'éducation à l'esprit critique.
Merci, parfait. Comme ça, on fait votre connaissance. C'est un entretien du SEM un peu particulier puisqu'il se fait sans public. On sera deux pour interroger Elena. Agnese Fassovelini, qui est enseignante de physique au Collège Voltaire, et moi-même, Fanny Boitard, prof de maths et formatrice ici au SEM. Elena, puisqu'on va parler essentiellement d'esprit critique, et en fait vous êtes là d'ailleurs aujourd'hui pour un colloque qui va parler d'esprit critique et de numérique, peut-être qu'on commence par une définition de l'esprit critique. On sait qu'il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous arrivez à nous donner la vôtre.
C'est une très bonne manière de commencer parce qu'effectivement, la définition d'esprit critique ne va pas de soi. Et à peu près, quand on va en formation, on peut avoir devant soi 20 images différentes de ce que signifie esprit critique dans la tête des personnes qu'on a devant nous. Et ça, c'est toujours un risque parce qu'on commence à parler, mais chacun après fait grandir sa plante dans sa tête. Donc, effectivement, avec un groupe de travail du Conseil scientifique de l'éducation nationale et des collègues chercheurs par ailleurs, et des collègues avec les éducateurs avec lesquels je travaillais à l'époque, on s'était penché sur cette question de la définition de l'esprit critique. On était un peu désœuvrés parce qu'on avait trouvé qu'il y en avait, même dans la littérature scientifique, en philosophie, en éducation ou encore en psychologie, il y avait énormément de définitions. On n'arrivait pas à nager au milieu de tout cet océan de définitions. On a fait un choix qui était un peu radical, et c'est celui que je vais vous proposer, c'était de chercher une définition très restreinte de l'esprit critique, très spécifique, qu'on ne puisse pas confondre l'esprit critique entre guillemets avec un autre concept comme la rationalité ou l'intelligence, et qu'on puisse aussi avoir une définition qui puisse être opérationnelle. En fait, on ne cherchait pas une définition juste pour publier un bel article dans Nature. On cherchait quelque chose qu'on puisse utiliser en classe, à la fois pour enseigner et à la fois pour évaluer s'il y avait du progrès du côté de l'esprit critique. Et voilà sur quoi on est tombé à la fin de la course. On a défini l'esprit critique à la fois comme un processus et un résultat. Le processus de l'esprit critique, d'exercice de l'esprit critique, consiste à examiner, analyser, évaluer l'information et sa qualité épistémique, c'est-à-dire est-ce que l'information que j'ai devant moi, qui peut être une opinion, un argument, une croyance, une idée, est-ce que cette pièce d'information tient la route, a des bonnes chances d'être correcte, d'être vraie? Et pour arriver à se prononcer sur cela, il y a un processus d'évaluation de cette information, à la fois de ses sources, à la fois de ses contenus, des arguments et des preuves à l'appui. Le résultat de cet examen, de cette information, est un placement sur un continuum de confiance. Bah, du coup, j'ai évalué cette information. Je me suis aussi évaluée moi-même pour me demander, mais est-ce que j'ai les capacités d'évaluer cette information? Et à la fin, je me place sur ces continuums. Oui, en fait, cette information m'inspire plutôt une confiance plutôt forte. Et je sais justifier cela sur la base de l'évaluation que j'ai faite. Cette information ne m'inspire pas vraiment une grande confiance. Je pense en fait qu'elle est fausse finalement, ou qu'elle n'est pas correcte. Elle est même mensongère peut-être. Ou alors je me place au milieu parce que je n'ai pas assez d'éléments. Ou moi-même, je ne suis pas capable de juger cela. Ce qui veut dire qu'en me plaçant au milieu de ce continuum, je suis prêt à bouger. Je serai toujours prêt à bouger si d'autres preuves vont être portées à mon attention, mais d'autant plus que je suis un peu au centre de ce continuum qui va, disons, du vert, très confiant, au rouge, pas très confiant.
Et cette évaluation des informations, ça demande du coup une méthode ou des méthodes? Est-ce que vous avez des exemples de comment est-ce qu'on fait pour évaluer l'information? Et puis, je pense qu'on ira naturellement aussi vers comment est-ce qu'on les enseigne, ces méthodes.
Bien sûr. En fait, il y a essentiellement une composante qui est presque, je dirais, intuitive, qui pour un enseignant peut paraître presque triviale dans ce processus d'évaluation. Si je vous détaille les critères par lesquels on passe, à chaque fois, vous allez me dire « Ah oui, bien sûr, ah oui, bien sûr, ah oui, bien sûr. » L'analyse de l'information passe essentiellement, comme on le disait, c'est comme une checklist, l'analyse des sources.
Ah oui, bien sûr.
Première question à se poser.
Je vais le dire. Ah oui, bien sûr.
C'est qui la source qui est en train de parler?
Ah oui, bien sûr.
C'est quoi les documents que j'ai devant les yeux? Est-ce qu'il s'agit d'une pétition? Est-ce qu'il s'agit d'un document officiel produit par une institution reconnue par sa réputation scientifique? Est-ce que la source, du coup, de cette information, elle peut considérer qu'elle est experte dans le domaine? On parle de médecine. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui a des connaissances médicales avancées? Ou bien c'est un physicien qui se prononce sur la médecine. Bon, on a le droit de se dire que peut-être on n'est pas nécessairement expert dans le domaine, les domaines scientifiques devenant de plus en plus spécialisés. On se pose la question de la bienveillance de la source. Est-ce que cette source a des raisons de mentir, entre guillemets, même involontairement, des intérêts qui pourraient pousser, et on les a tous, hein, et du coup il s'agit de les identifier, des intérêts à pousser, disons, l'opinion vers une direction plutôt que d'une autre. Une fois qu'on a analysé les sources, on peut analyser les contenus. En fait, très souvent, la première chose qu'on fait instinctivement, c'est de se poser une question sur les contenus, c'est-à-dire de se poser la question, est-ce que ce contenu est plausible à la lumière de ce que je sais par ailleurs? Quand on vous dit que des martiens on débarquait à Lausanne, la première chose, probablement, selon vos croyances préalables, mais la première chose que vous allez penser est bof, franchement, allons voir. Donc, vous évaluez très, très spontanément et instinctivement la plausibilité de ce contenu. Bien sûr, plus on a des bonnes connaissances solides dans différents domaines, plus cette plausibilité, ce jugement de plausibilité va avoir des chances d'être correct. Oui. Si j'en sais strictement rien sur l'énergie, n'importe quelle phrase, affirmation concernant l'énergie des cristaux magiques va me paraître absolument plausible. Il me faut des connaissances pour la juger. Donc, un jugement de plausibilité basé sur les connaissances. Et après, les arguments. Hein, on passe à analyser les arguments. Est-ce que les arguments sont bien portés? Est-ce qu'il y a des contradictions là-dedans? Est-ce que c'est cohérent si, qui m'est dit? Est-ce que les conséquences, ça, c'est de la logique, suivent réellement des prémices ou pas? Et c'est des petits outils, effectivement, à acquérir dans ces domaines-là. Et pour terminer, on va se poser la question des preuves à l'appui. Est-ce qu'il y a des preuves à l'appui? Les preuves, elles peuvent être de différentes natures. Dans un cas, par exemple, où on jugerait une affirmation concernant l'histoire, les preuves à l'appui vont être des preuves de nature témoignage, documentation. Il va y avoir une méthodologie qu'on exploite, que les historiens exploitent, pour identifier les bonnes preuves à l'histoire. Ça sera semblable, mais pas identique, pour une affirmation scientifique. Les scientifiques ont des méthodes qui permettent effectivement de produire des bonnes connaissances. S'il s'agit d'une affirmation concernant un fait, en fait de réalité immédiate, on se tournera vers des preuves journalistiques et on ira vérifier cela. Et donc, vous voyez, c'est un processus qui, au final, est assez intuitif. Une analyse des sources, une analyse des contenus, des arguments et des preuves à l'appui. On ne fera jamais probablement tout à chaque fois. On le fera quand c'est vraiment important et on ira beaucoup plus vite quand c'est moins important. Mais voilà, des étapes, effectivement, comme une checklist à suivre pour évaluer l'information.
Et donc ça s'enseigne, donc la méthode, les checklists, et puis il y a le côté, vous disiez aussi, avoir des connaissances scientifiques ou avoir des connaissances sur le monde pour bien évaluer la plausibilité des choses déjà a priori. Est-ce que ce sont deux choses qui s'enseignent un peu séparément? Est-ce que ça s'enseigne ensemble? Puis comment ça s'enseigne?
Alors, ça s'enseigne. Il y a malheureusement, en ce moment, à ce jour, disons, quand on va regarder la littérature scientifique en éducation pour savoir qu'est-ce qui marche pour l'éducation à l'esprit critique, on ne trouve pas des choses très convaincantes. On ne trouve pas des preuves très convaincantes de méthodes qui sont plus efficaces que d'autres. On trouve ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire des grandes synthèses de la littérature, mais qui mettent ensemble des interventions de classes très, très différentes. Et donc, quand tu vas regarder, c'est un peu comme si tu trouvais dans ton assiette un peu de soupe, un morceau de gâteau au chocolat, un brocoli et des pâtes. Et c'est très difficile de de se dire que tu as un plat compréhensible. Mmh. Okay, donc, on est un peu dans cela. Donc, il faut y aller un tout petit peu avec, en partie, des preuves empiriques, mais aussi des connaissances, disons, par ailleurs, de qu'est-ce qui marche en éducation et des bases naturelles de l'esprit critique. Alors, cette prémisse faite, et désolée, elle était un peu longue, mais c'est important de dégager le terrain, de ne pas mentir et dire « on sait exactement ce qui va marcher, vous mettez ça en place et bim, ça va fonctionner ». On sait qu'on peut éduquer l'esprit critique parce que, et éventuellement on y reviendra, on a des bases naturelles déjà dans notre cerveau, entre guillemets, qui nous permettent d'exercer cet esprit critique. Il ne s'agit pas de changer la tête des gens, de changer la tête des élèves. Il s'agit effectivement, comme vous l'avez dit, de les entraîner, entre guillemets, hein, c'est un mot à prendre avec des pincettes, mais les habituer à utiliser ce type de checklist, à développer ce type de réflexe, à se poser ces questions et à utiliser pour ces questions des bonnes informations pour évaluer effectivement l'information. Je fais un exemple simple. Quand quelqu'un vous apporte une information, vous avez tendance à juger sa bienveillance, c'est-à-dire ses intentions de mentir, spontanément, du fait que vous connaissez cette personne. Mmh. Ah, ok, bon, c'est ma maman, elle a pas envie de me mentir. C'est un bon indice, c'est un bon indice. Mais c'est clair que vous n'allez pas utiliser le même indice sur une question comme est-ce que le changement climatique a une origine humaine ou pas ? C'est pas la familiarité qui va vous sauver dans ce cas-là. Ce qui veut dire qu'en plus de se poser ces questions de la checklist pour simplifier, il faut aussi avoir développé au fur et à mesure la connaissance des bons indices à utiliser pour évaluer les sources dans un certain domaine. Alors en histoire, j'aurais besoin de permettre à mes élèves de connaître les méthodes de l'histoire. Mmh. Comment les historiens produisent des connaissances solides? Ils seront ainsi capables de chercher les indices qui font de cette affirmation une affirmation fondée sur des bonnes preuves ou pas, de cette source une source fiable ou pas dans ce domaine. Même chose dans les domaines de la physique, dans les domaines de la biologie, etc. Donc il s'agit à la fois d'habituer à utiliser ces questions, mais aussi de nourrir la capacité à répondre à ces questions par des connaissances. Mmh. Ça peut paraître paradoxal que l'esprit critique, qu'on considère une capacité à raisonner typiquement, un peu abstraite, au final, a besoin de beaucoup de connaissances.
Oui, ce que j'ai lu et ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était difficile, en fait, d'enseigner l'esprit critique, en tout cas de l'apprendre. Il y avait une certaine résistance des apprenants à l'apprentissage de l'esprit critique. Et est-ce que c'est dû au fait qu'ils font confiance à leur bon sens, hein? Donc, j'entends beaucoup qu'il faut plutôt faire confiance à son bon sens et qu'il faudrait d'abord admettre que notre bon sens peut nous tromper.
Alors, je vais répondre un peu oui, un peu non. C'est-à-dire, on a, au cours des dernières années, beaucoup mis en évidence en psychologie. Il y a eu même des Nobel, des prix Nobel qui ont été assignés sur cela. On a mis beaucoup d'attention sur les biais cognitifs, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs sont des tendances à répondre d'une manière effectivement rapide, parce que les problèmes de la vie, souvent, demandent une réponse rapide, à bas coût, en utilisant des sortes de préconceptions ou de réflexes qui, voilà, viennent très vite nous permettre de répondre à un besoin. Donc, comme on disait, on a tendance à évaluer, par exemple, une source sur la base d'indices qui sont très perceptible, très rapide à obtenir et du coup plutôt superficiel. Est-ce que je connais la personne? Je vais faire confiance à mon ami. Ce n'est pas complètement justifié, je vais y revenir. Est-ce que je connais la personne? Est-ce que par ailleurs je considère que cette personne elle est honnête? Et donc des indices rapides, frugaux, à bas coût, que je peux obtenir facilement et qui me permettent, voilà, de me situer par rapport à une information. Bien sûr, nous avons toutes ces tendances-là et tous ces biais, entre guillemets, y compris un biais qui nous amène à chercher à confirmer nos idées, à ne pas se mettre trop en difficulté, à ne pas se mettre trop en contradiction avec soi-même. Ce qui nous permet de nous réveiller le matin et d'aller toute la journée travailler avec des bonnes convictions. Donc oui, ça, oui, on a ça. En même temps, de plus en plus, les études en psychologie cognitive vont mettre en évidence le fait qu'on n'est pas si mauvais que ça et que même ce qu'on appelle les biais, il y a tout un courant de la psychologie qu'à la place de les appeler les biais, par exemple, les appelle les heuristiques, c'est-à-dire des bonnes stratégies pour répondre vite. Et vous voyez, ça change le ton. Le biais, c'est une stratégie pour répondre vite à une question. Les heuristiques, c'est des stratégies pour répondre vite à une question, mais c'est la même chose. En fait, c'est un peu cet outillage que nous avons dans notre cerveau qui nous permet de fonctionner au quotidien. Et du coup, sans trop faire d'efforts, parce que l'effort, c'est des calories. Hein, quand on pense, on consomme. Donc, c'est des calories. Après, il faut manger, etc. Donc, à moindre effort, de se tenir à ce qui est à peu près capable de nous faire agir correctement. Le problème étant que le genre de problème et le genre d'information, par exemple, face auquel on se trouve confronté au quotidien, n'est pas nécessairement toujours facile à résoudre par ces genres d'indices. Et là, il faut faire un effort. C'est-à-dire, il faut faire l'effort, effectivement, de se poser les bonnes questions avec des indices coûteux à obtenir. Il ne suffit pas de regarder, je vais faire un peu un exemple controversé, il ne suffit pas de regarder si la personne qui me parle de Covid porte une belle chemise blanche de médecin et a des cheveux bien ébouriffés, qui est un signe immédiat, perceptible, rapide de compétence dans le domaine. Il faut que j'aille regarder quelque chose de beaucoup, une information qui est beaucoup, que j'aille chercher, une information plus coûteuse à chercher, qui est-ce qu'il y a un consensus derrière cette personne, un consensus scientifique autour de ce que cette personne, elle dit. Et ça, c'est compliqué. Et donc, effectivement, comme vous le disiez, la première réaction rapide m'amène à utiliser un certain type d'indice et l'exercice, entre guillemets, disons comme ça, pro, l'exercice expert de l'esprit critique, me demande de faire l'effort de nourrir à chaque fois les critères d'évaluation par des indices plus coûteux. Et bon, non, on n'a pas tout le temps envie de faire cet effort. Et je pense qu'on a un peu raison aussi, au sens où il y a beaucoup de questions sur lesquelles on n'a pas besoin d'y passer une heure pour évaluer l'information. Si on me dit que le boulanger, il est bon, et que c'est une copine qui me le dit, et que je sais que la copine, elle a des goûts semblables aux miens, je vais chez le boulanger, je ne fais pas une recherche sur Internet en cherchant tous les avis possibles sur le boulanger, je ne vais pas interviewer dans la rue les gens pour obtenir un échantillon représentatif concernant les boulangers. Bon, ça se règle facilement. Mais si on me dit quelque chose qui met en question un consensus scientifique, si on me dit « Non, mais Elena, mais tu sais, le changement climatique, c'est douteux, hein, cette histoire, qu'on soit à l'origine de ça, il a toujours existé. Ben » là, par rapport aux connaissances que j'ai, je vais faire l'effort de démonter ce type d'objection et ça va me coûter. Ça va me coûter de recherche, ça va me coûter un temps, ça va me coûter une énergie. Je vais devoir manger un gâteau après pour reprendre toutes les énergies que j'ai dépensées avec mon exercice de l'esprit critique. Donc, c'est difficile parce que ça demande un effort, mais ce n'est pas, et c'est à ça que je voulais arriver, ce n'est pas innaturel d'exercer son esprit critique. Je dirais plutôt que c'est naturel d'avoir un esprit critique, mais que c'est difficile de nourrir et outiller cet esprit critique naturel avec des outils puissants, avec des outils adaptés aux situations du quotidien et d'habituer nous-mêmes, nos élèves, nos collègues, nos amis, à faire cet effort quand il est nécessaire d'utiliser les bonnes connaissances, les bons indices ou alors de rester, modéré dans sa prise de position avant de se lancer dans des grands débats.
Vous avez une vision plutôt optimiste. Vous dites qu'en fait, on est naturellement calibré pour faire preuve d'esprit critique, mais que si on nous donne les bons outils, les bonnes connaissances, on devrait pouvoir y arriver. Hein. J'essaie de résumer là ce que...
Ouais. Oui. Et je pense que ce n'est pas un optimisme complètement irrationnel. Après, ça peut faire partie de mes biais, de vouloir aussi voir les choses du côté du verre moitié plein. Mais je ne pense pas que ce soit irrationnel au sens où, avant d'arriver avec le groupe de travail que je vous disais, à porter ce message optimiste, on a vraiment analysé beaucoup de littérature en sciences cognitives. Et ce de quoi on s'aperçoit, justement, quand on va étudier les biais, la première chose qu'on vous présente dès que vous parlez d'esprit critique, c'est « il faut dépasser nos biais ». Et là, quand vous allez plus loin dans la littérature et dans les études sur l'esprit humain, on s'aperçoit que même les enfants ont déjà un bon outillage en ce qu'on vient de définir comme esprit critique, au sens que c'est... appelons-le instinct, ce réflexe rapide, du coup, à bas coût, à analyser les sources, ils en font preuve très tôt dans leur vie. 3 ans déjà, ils commencent à... Ils manifestent cette volonté de savoir qui leur parle, de choisir l'information sur la base de la nature de la source. Ils vont utiliser des indices, comme on disait, hyper simples, hyper perceptibles, de bas niveau, si vous voulez. La familiarité de la source. Entre deux sources qui leur donnent une information, je pense à des études qui sont conduites sur des enfants de 3 ans, entre deux sources qui leur donnent une information contradictoire, ils ne vont pas être neutres face à leur source. Ils ne vont pas, entre guillemets, se dire bon, « l'un vaut l'autre, toutes les sources sont pareilles ». Ils vont choisir avec critère l'une des deux sources d'information, et ceci sur la base d'un critère qui est celui de la familiarité, donc de la bienveillance de la source. Et ils vont le faire en choisissant la source qu'ils connaissent mieux, leur maîtresse, par rapport à une autre maîtresse de la même école, par exemple. Donc, ça, on peut le montrer sur différents critères que je disais de la checklist. C'est comme si cette checklist, on l'avait, entre guillemets, dans la tête, très tôt dans la vie. Et si vous y réfléchissez, ce n'est pas illogique d'un point de vue évolutionnaire. On est une espèce sociale, on dépend énormément de l'information qui nous vient des autres, de l'information de seconde main. On n'est pas là à découvrir le boson de Higgs tout seul, ou même à découvrir qu'est-ce qui est bon à manger tout seul. On dépend de quelqu'un qui vous dit, on dépendait dans notre passé, de quelqu'un qui vous disait, et là, de ce côté du bois, on va trouver des bonnes racines et des bonnes baies à manger. Allons de ce côté. Et là, il s'agissait d'évaluer si la personne qui nous parlait, on allait lui faire confiance. Est-ce que c'est quelqu'un qui, typiquement, le soir, ramasse des bons paniers de baies? Ou c'est quelqu'un qui, le soir, rentre toujours le panier vide? Ou alors, allons chasser les mammouths de ce côté-là. Oui, mais est-ce que c'est quelqu'un qui, tous les soirs, rentre sans avoir mangé ou rentre avec sa proie? Ça, c'était un signe d'expertise, clairement. Et donc, c'est logique, c'est, disons comme ça, d'un point de vue évolutionnaire, ça tient la route, l'idée, que certains traits qui nous amènent à évaluer nos sources et ce qu'elles nous disent, qui nous amènent à évaluer les contenus, et si ça tient la route, qui nous amènent aussi à observer d'une façon fine s'il y a des preuves ou pas. Pensez aux chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui et d'un temps qui se sont toujours basés sur des empreintes pour aller trouver leur proie. Tu dois être capable de te poser une question, une hypothèse, de dire si les empreintes vont dans cette direction, la bête est probablement dans cette direction-là. Et si elle n'y est pas, de changer après et de considérer que ce n'est pas une preuve. Donc, c'est plutôt logique qu'on ait ces capacités-là, ces critères, ces questions qui nous viennent à l'esprit quand on nous donne une information, quand on l'analyse. Mais, et d'où mon optimisme, et d'où l'idée que l'esprit critique a des bases naturelles dans notre cerveau et qu'on n'a pas à l'inventer dans les cerveaux de nos élèves, on a à l'exploiter et à l'outiller avec ces critères et ces indices beaucoup plus performants pour l'information d'aujourd'hui, puisque je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'élèves qui vont chasser le mammouth ou chercher des baies et des racines dans la forêt.
Et alors, à quels enseignants revient le rôle d'outiller les élèves et de donner tous ces nouveaux outils qui sont plus performants, qui sont peut-être plus adaptés au monde d'aujourd'hui, à un environnement plus complexe? Est-ce que c'est le prof de maths qui doit faire ça, le prof de physique?
Tous.
Tous?
Tous. Alors, la bonne et la mauvaise nouvelle, vous la prenez comme vous voulez, hein, c'est tous. C'est-à-dire, il n'y a personne, je pense, qui puisse dire « la chance, ce n'est pas mon rôle là-dedans ». C'est le rôle de tous parce que le genre de connaissances desquelles on a besoin, en fait, sont vraiment transdisciplinaires. Si on exerce son esprit critique uniquement, il y a 2 raisons. La première, si on exerce son esprit critique uniquement dans le cours de physique ou dans le cours de mathématiques, difficilement on en verra l'utilité au-delà du cours de physique, au-delà du cours de mathématiques. On sait que la disciplinarité crée des problèmes de transfert des connaissances et tous les profs que je connais se plaignent du fait d'avoir déjà travaillé les graphiques en biologie et de se retrouver après et leurs collègues de dire « mais moi, quand ils sont arrivés en physique, ils n'en savaient strictement rien ».
Ça ne se passe pas du tout en Suisse.
Non ? Ok. Alors, non, vous me rassurez, mais en France, par contre… Je pense que c'est assez universel et c'est assez normal. Là aussi, ça fait partie de notre fonctionnement mental tout à fait normal de coller fortement au contenu et d'avoir du mal à extraire la généralisation du contenu concret sur lequel on a travaillé. Le contenu concret, il est perceptible, il est direct. Les fameux biais dont on parlait, il est là, c'est sur ça que je me colle. Donc, quand je veux transférer d'un contenu à un autre, voire avoir quelque chose de plus général que je pourrais appliquer à des contenus nouveaux qui vont arriver, qui est un peu l'âme du transfert, c'est très difficile. Du coup, si l'esprit critique, on arrive à le travailler dans toutes les disciplines, on multiplie déjà l'exposition des élèves et aussi la visibilité du fait que l'esprit critique n'est pas juste une question de physique, n'est pas juste une question de mathématiques, c'est quelque chose qui va au-delà. Donc, d'un côté, on multiplie l'exposition, et il n'y a pas un seul prof qui a à le faire 5 heures par jour. Tout le monde s'y met 5 minutes et ça va remplir, la dose quotidienne de l'élève. Donc, premier avantage. Deuxième avantage, on va montrer qu'en changeant de contexte et de contenu, certaines règles générales s'appliquent de même. L'analyse d'une source, la plausibilité du contenu, la recherche de preuves. C'est un message général que je peux porter en mathématiques, en physique, en biologie, en histoire, en géographie et même en littérature, en analyse littéraire. Ce qui va changer, par exemple, c'est la manière dont chacune de ces disciplines va produire ses preuves. Et du coup, il sera important que chaque enseignant soit armé pour développer les compétences non seulement de connaissances factuelles, mais aussi méthodologiques, épistémologiques. C'est un gros mot, mais ça veut juste dire les méthodes utilisées par ta discipline pour produire des connaissances et qu'ils soient prêts à le faire dans toutes les disciplines. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on parle à chaque fois de gouttes d'esprit critique qui sont mises dans chaque cours. L'idéal, dans une vie de rêve, que je vous promets n'est pas celle qu'on vit en France, serait que les enseignants aient tellement de temps de se parler qu'ils puissent, quand il ne s'agit pas d'enseignants du primaire, mais du secondaire, donc disciplinaire, avoir le temps de se dire « Écoute, moi, je suis en train de travailler sur ce type de méthodologie pour l'épreuve, sur l'observation en physique. Est-ce que tu as un parallèle? Tu vas le faire en biologie? Est-ce que tu vas le faire en mathématiques, sur l'observation, la recherche de preuves ?» Et qu'on va pouvoir dire à nos élèves à peu près la même chose en même temps et leur faire passer un message général en même temps, en mettant des flèches, en disant « Et demain, tu vas voir la même chose avec ma collègue. Hein. » Tu vois, ça se transpose et le faire vivre aux élèves. En France, on n'a pas le temps de faire ça.
Ok.
Pas trop, disons. Et donc, la concertation n'est pas exactement quelque chose, malheureusement, qu'on arrive à faire facilement parce que... Donc, le plus simple, ça serait effectivement, dans les programmes, de pouvoir montrer à côté de chaque contenu disciplinaire et quel type de goutte d'esprit critique on peut mettre pour qu'on puisse se coordonner au moins déjà à travers grands curricula disciplinaires et savoir quand ça va arriver dans les pattes de nos collègues, le fait de travailler, par exemple, sur un certain type de source ou sur un certain type de plausibilité, etc. Donc ça, c'est cette idée que, malheureusement ou heureusement, hein, je vous prenez vraiment comme vous voulez, ça concerne tout le monde et ça concerne le tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas « allez hop, un cours d'esprit critique par semaine, une heure et ça sera plié ». Ça, quand on va regarder la littérature en éducation, en didactique, on voit que ça ne marche pas trop bien. Même les cours pour exposer au biais, parce que ça reste souvent très général, ça s'explique facilement. Un cours d'esprit critique que tu ferais indépendamment des disciplines une fois par semaine, ça peut donner l'impression de donner des bons outils généraux. Je t'apprends, c'est qu'on vient de dire, je t'apprends que les preuves sont importantes. Oui, mais après, quand je me trouve face à un contenu spécifique, je ne sais pas reconnaître là-dedans comment identifier les bonnes preuves. Donc, c'est l'application qui, du coup, devient difficile si on n'a pas du concret sur lequel s'exercer. C'est pour ça que quand on regarde la littérature sur le transfert, les conseils principaux sont de dire à la fois incarner un principe sur du concret, montrer comment ça marche dans ce cas concret-là, multiplier les cas concrets de manière à exposer à de la variabilité d'application du même principe et ce principe, l'expliciter de façon verbale, générale, en aidant à voir sa généralité, parce que même en multipliant les contextes et les contenus, les élèves ne vont pas nécessairement le voir. Donc, ça demande à la fois de la multiplication des contextes, de la variance, de la variabilité et beaucoup d'explicites, y compris des questions du genre « Ok, on l'a vu en physique, on l'a vu sur ce contenu de biologie, on l'a vu sur cet autre contenu de biologie, quel est le principe général ?» Analyser l'expertise de la source. Dans ces deux cas-là, on a vu que l'expertise, ça s'est reconnaissé à ça. Dans notre vie quotidienne, trouvons encore un ou deux exemples d'application de ce principe général pour voir que voilà, ça ne se transpose pas que d'une discipline à l'autre, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc, je reviens à la question, pourquoi c'est tellement difficile d'enseigner l'esprit critique? Je pense que ce n'est pas juste une question cognitive d'effort, c'est vraiment aussi une question de dispositif éducatif, de pouvoir coordonner ce type d'effort, et c'est vrai pour toutes les savoirs dits ou les savoir-faire dits et les compétences transversales, multiplier cet effort, dans les exposer les élèves à cette complexité qui est aussi dans la durée du temps et transversale aux différentes disciplines et explicite. C'est là pour moi la vraie difficulté.
Est-ce qu'il y a des pays où ça se fait et où ça marche à votre connaissance?
Dans ce cours de théorie de la connaissance qui se donne dans le baccalauréat international, parce que ça, c'est un petit peu efficace ou parce que c'est un cours détaché des disciplines, c'est moins efficace?
Alors, je ne connais pas d'études spécifiques qui auraient montré ces effets positifs ou non. Donc, sur ça, j'évite de me prononcer d'un point de vue empirique, disons. J'aimerais bien voir des études sur qu'est-ce qui change. Malheureusement, il faut du coup faire des évaluations pré-post et comparer avec des élèves qui ne font pas le même type de parcours. Ma réponse, disons comme ça, plus théorique et plus basée sur des intuitions informées, serait de dire que ça arrive un peu tard. En fait, c'est un exercice de longue haleine, celui de s'entraîner à se poser des questions et acquérir des connaissances. Et chercher à le mettre tout au fond de la scolarité d'un élève, j'ai peur que ce soit un peu tard, pas inutile et pas inefficace. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste, dommage que ne ce soit pas la dernière étape de mise en concert de tout ce qu'on a appris au cours de la scolarité pour se préparer à ce qui vient après. Et en même temps, et du côté de nouveau du verre mi-plein et pas mi-vide, ça peut être quand même une très bonne étape avant de passer et à la vie opérationnelle dans le travail et à des études supérieures où on a quand même besoin d'avoir au moins ce type d'outils. Mais effectivement, ça va manquer un peu de temps pour pouvoir s'exercer sur des contenus divers et variés. Et donc, on risque d'avoir un peu l'idée générale de ce qu'il faudrait faire, mais avoir du mal à savoir précisément, dans différents contextes, d'avoir acquéri aussi un peu ces bonnes habitudes qui prennent du temps. Et si je reviens à votre question sur les biais, par exemple, ben les biais, on y répond, c'est des réponses, même si on les appelle heuristiques et on fait un grand sourire, c'est des réponses rapides parce qu'elles sortent vite, parce qu'elles sont automatisées. Si on ne veut pas voir sortir des réponses automatisées rapides, ben la seule manière, c'est d'apprendre à automatiser, c'est automatiser au fil du temps d'autres types de réponses pour qu'elles ne nous coûtent pas trop cher. Et que donc, dans la course, pour quelle réponse va sortir la première, on est donné plus de chances aux réponses plus complexes, basées sur des indices plus puissants et plus adaptés, de gagner la course, de sortir en premier plutôt que ma réponse intuitive utilisant des indices de bas niveau. Donc, si on ne s'entraîne pas au cours de toute sa scolarité, j'ai peur qu'on arrive un peu tard pour arriver à faire cela facilement.
Semcast. Je propose qu'on passe à un deuxième thème qu'on voulait aborder avec vous, Elena Pasquinelli, c'est tout ce qui est lié au numérique. Parce que c'est aussi une de vos spécialités. Oui. Vous avez notamment écrit un livre qui s'appelle « Comment utiliser des écrans en famille ». Et évidemment, on se pose la question de est-ce que les écrans sont un élément positif à les écrans. Alors, c'est très, très général, c'est trop général. Mais est-ce que cet accès facilité à l'information, est-ce que c'est quelque chose de positif pour l'esprit critique ou quelque chose de délétère?
Alors, le titre du livre semble vraiment donneur de leçons, et c'est tout sauf que, mon Dieu, mais je jure que c'est les éditeurs typiquement qui choisissent les titres et pas les auteurs, qui sont beaucoup plus modestes, du genre « qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui dire sur la base de la littérature existante à propos de… » Mais c'est trop long. Le verre mi-plein, je pense que… Et là aussi, c'est assez trivial si on y pense… Nous tous, on fait l'expérience de l'intérêt et de l'utilité d'avoir toute cette information. Beaucoup d'informations, je ne vais pas dire toutes, mais beaucoup d'informations à notre portée. Quand je suis arrivée en France il y a plus de 20 ans, je faisais mon mémoire de maîtrise. À l'époque, ça prenait beaucoup de temps à écrire en Italie. Et même pour ma thèse de doctorat. Moi, j'ai passé mes journées à la bibliothèque à imprimer des milliers de pages d'articles, de revues scientifiques, pas imprimées, désolé, non, à photocopier parce qu'ils étaient là physiquement. Et aujourd'hui, quand je vois mes doctorants, ils me disent quoi ? Photocopie de quoi ? D'une revue ? Mais les revues sont toutes en ligne. Donc, on ne peut pas que se réjouir de cet accès à des connaissances parce que c'est une forme de démocratisation de la connaissance qui a un intérêt certain. Donc, ça, c'est le verre mi-plein. Après, qui dit démocratisation de la connaissance dit aussi qu'on se retrouve effectivement parfois, souvent, noyé, et pas juste par la désinformation ou par la mauvaise information, mais par le trop d'informations. Et je pense que ça aussi, il faut le prendre en compte. On se sent presque coupable de ne pas tout regarder, ne pas tout savoir, ne pas tout faire. Ça devient angoissant. Avant, moi, quand j'avais regardé mes 4 revues que j'avais dans la bibliothèque de l'école des hautes études, c'était fait le job, parce que je ne pouvais pas aller à Amsterdam, à New York, chercher les autres revues. Mais non, je culpabilise parce que je n'ai pas tout regardé. Et ça prend beaucoup de temps et c'est pas un effort humain. Donc, d'un côté, on a un peu dépassé. Je pense, et c'est une opinion de philosophe, ça. Et donc, je passe à l'autre côté, moins scientifique, plus philosophique. On a un peu dépassé nos capacités mêmes. On s'est donné tellement d'outils pour devenir intelligent qu'on ne sait plus comment... On ne peut plus vraiment les utiliser correctement parce que c'est trop. Donc, il y a ce côté-là pour le côté connaissance. De l'autre côté, on a sûrement une exposition qui est constante à des outils technologiques, les écrans, le téléphone, la tablette, l'ordinateur, sans bien comprendre ce qui se passe dans notre cerveau quand nous sommes confrontés à ce type d'objet et notamment à certains types de contenus. Donc l'idée, c'est peut-être on a besoin de faire une petite pause de temps en temps et de se poser la question comment ces outils interagissent avec mon attention, comment ils vont interagir avec ma mémoire, comment ils vont interagir avec mes émotions. Et de là, trouver des stratégies pour une utilisation qui soit moins passive, moins... ils sont là, il faut les utiliser. C'est un peu l'attitude qu'on a en ce moment face à l'IA, par exemple. Elle est là, et que vous ne l'utilisez pas, elle est là. Et donc, moi, ce qui me fait beaucoup peur dans le panorama informatique, c'est que très souvent, la réponse arrive avant qu'on se soit posé la question à quoi ça me sert, et qu'après, on est à la course à chercher des questions pour donner du sens à ce qu'on a déjà inventé. C'est le cas d'Elia. Donc voilà, on est un peu dans cet surménage mental créé par ces outils et un peu dans cette course à s'inventer des bonnes manières de les utiliser alors que peut-être, dans certains cas, on n'en a pas trop besoin, un besoin essentiel, et que c'est juste leur facilité d'utilisation et la fascination après aussi du nouveau qui fait qu'on a l'impression de ne pas pouvoir s'en passer.
En fait, il y a un peu, c'est comme vous le disiez, il y a deux mouvements contradictoires. En même temps, on a de plus en plus d'informations et en même temps, on a l'impression que les gens croient de plus en plus aux fake news. Donc, ça voudrait dire que plus d'informations nous rend plus crédules ou c'est une impression et que finalement, il n'y a pas plus. Est-ce que finalement, on avait aussi des fake news avant Internet et puis on ne se rendait pas compte que les gens croyaient des choses qui étaient fausses?
C'est une question qui est très difficile, la réalité. Et du coup, il y a beaucoup d'études en ce moment qui cherchent à quantifier à la fois la quantité des fake news, à la fois la quantité des gens qui croient aux fake news, qui retweetent, qui partagent des fake news ou qui consultent des sites spécifiquement des fake news ou qui tombent dans des fausses croyances parce qu'ils sont tombés sur une fake news sur un réseau social sans l'avoir cherché spontanément. Et c'est autant de cas de figure qui sont différents. Donc le panorama est compliqué de ce point de vue. Il y en a beaucoup. Il reste que dans le panorama informationnel actuel, on a quand même plus d'informations correctes que non correctes. On a des données optimistes. Aujourd'hui, c'est ma journée optimiste. Ça doit être le soleil, le printemps, hein, le mois d'avril. Mais il y a des données optimistes, par exemple, quand on va regarder la confiance que les gens font à la science par rapport à d'autres sources d'informations, et notamment dans des périodes de crise, exemple la Covid, on voit que cette confiance à la science est assez élevée. Donc, on va plutôt écouter des sources qui sont expertes dans le domaine et que surtout, cette confiance monte dans les moments de crise. Donc, période Covid, en réalité, on va vraiment écouter les scientifiques plus que d'autres formes de sources. Ça, c'est le côté optimiste. Les fake news et notamment les informations qui sont construites de toutes pièces ont énormément d'avantages cognitifs par rapport à la vérité. C'est-à-dire qu'avantages cognitifs ne veut pas dire qu'elles sont meilleures, mais elles ont des avantages. Elles courent plus vite. Elles courent plus vite dans notre cerveau parce que quand tu peux inventer quelque chose, c'est comme les fables ou comme la littérature. Tu peux y mettre tout ce que tu veux. Donc, tu sais que les gens aiment des informations qui disent qu'il faut avoir peur de l'ennemi, la peur, ça marche très bien. Donc, tu prends et tu fabriques ta fake news en y mettant un peu de mauvaises nouvelles et de menaces. Bon. Après, qu'est-ce qu'on peut y mettre? On va y mettre un danger pour toi plutôt immédiat. OK, parfait. Donc, je mets cet ingrédient-là. Et on peut cumuler les ingrédients qui vont plaire. Quand vous allez raconter un fait réel, vous ne pouvez pas trop le manipuler parce que sinon ce n'est plus réel et du coup il risque d'être moins sexy. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de drame majeur, les incidents de la route étaient plutôt réduits, on a eu du beau temps, etc. Ben ça n'intéresse personne. Et c'est normal parce que, bien sûr, à capacité limitée, c'est-à-dire je n'ai pas le temps et je n'ai pas les énergies à jeter à la poubelle, la première chose qui m'intéresse, c'est si tu m'alertes sur un danger. Ça, c'est la première chose que je veux savoir d'une information. S'il y a danger, c'est important de le savoir tout de suite. Donc, je suis très attentif aux dangers. Je suis très attentif aux menaces. Je suis très attentif aux informations qui portent sur mon groupe. Je suis fan d'une équipe de foot. Les informations sur cette équipe de foot, pour moi, sont beaucoup plus pertinentes que les informations sur une autre équipe de foot. C'est normal, c'est mon groupe. Donc, les fake news ont cet avantage cognitif que tu peux y mettre tout ce que tu veux pour te faire écouter immédiatement. Et donc, c'est là le risque après. Les gens sont plutôt capables de distinguer entre des fake news, et des informations correctes et de faire le tri, ou alors alerter, de réagir en se mettant un instant en utilisant des bons réflexes. Il y a des bonnes études, par exemple, sur les questions liées notamment à la désinformation sur le climat et sur la santé, qui ont mis en évidence que faire de la vaccination préventive aux fake news est plutôt efficace. Ça s'appelle le pre-banking. Plutôt que faire du debanking d'une fausse information, et on pourra en parler, c'est presque impossible à faire, tu alertes sur le fait que, attention, dans ce domaine, il y a beaucoup de monde qui dit des grosses bêtises et qui utilise ce type de stratégie pour attirer ton attention. C'est un peu comme si je te faisais le petit vaccin avant. Quand tu vas rencontrer ce type de manipulation, tu vas dire « Ah, mais ça sonne déjà, je l'ai déjà entendu. » C'est ton système immunitaire qui va reconnaître la bébête pour, contre laquelle on a été vacciné. Donc, on a un risque qui est celui que quand on va vite, quand on n'a pas le temps, on peut écouter tout ce qui nous alerte et nous parle plus profondément et qui nous fait réagir plus vite. Mais on a la capacité, surtout si alerté, de faire attention à tout cela. Et on remarque aussi que quand les gens partagent ou vont chercher des fake news, ils le font volontairement. Hillary Clinton et sa clique qui renferment des enfants, les Pizzagate, qui renferment des enfants dans des pizzerias dans les bas-fonds de New York, c'est pas une information sur laquelle tu tombes par hasard et tu te dis « Oh mon Dieu, mais ça pourrait être vrai !» La fameuse plausibilité dont on parlait au tout début, tu te dis tout de suite « Bizarre !» Les gens qui y croient, ils sont allés la chercher, cette information-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mindset, il y a quand même une forme mentale, une volonté d'appartenir à un certain type de groupe, de faire groupe avec des contestataires, de faire groupe avec des gens qui se disent avoir l'esprit critique et ne pas croire à tout ce qu'on nous dit, etc., qui vont chercher exprès les sites de fake news. Ils ne vont pas les trouver comme ça. Ils fréquentent des gens qui sont typiquement, ça fait groupe, terre-platiste, Ilkwao Pizzagate, ça se met tout ensemble. Donc il y a un peu un profil très prône aux fake news, mais avec des déterminantes, disons, des cognitions sociales et culturelles. Je veux appartenir à ce type de groupe-là. Je me sens de bien appartenir à ces groupes-là. Après, il y a le citoyen lambda qui se trouve en difficulté parce qu'on me dit trop de choses, et que certaines de ces choses font plus vite chemin dans mon esprit, que je dois faire l'effort de me souvenir, si j'ai été vaccinée, de ne pas surréagir face à ces informations-là. Et du coup, après, il y a les gens qui ont une formation très poussée dans certains domaines et qui ont l'envie et le temps de se mettre à faire aussi du debunking, etc. Il y a un peu un spectre, je dirais. Nous, gens normaux, on est un peu au milieu de ce spectre, un peu embêtés par le trop d'informations, un peu des fois à surréagir, mais à savoir revenir sur nos pas si des informations raisonnables nous sont données en échange. Ça, c'est un point très important, le fait qu'il faudrait focaliser beaucoup plus l'attention sur les bonnes news que sur les fake news, et donner beaucoup plus d'outils pour reconnaître les bonnes news que les fake news, réagir très vite en donnant des alternatives aux fake news pour éviter après de se figer, que les gens se figent sur des informations douteuses. Si on vous dit, si aujourd'hui vous lisez dans le journal que le restaurant chinois en bas de chez vous a fermé parce que 40 personnes sont parties à l'hôpital suite à un empoisonnement, on a beau deux jours après publier une information qui dit « Non, non, ce n'était pas le restaurant, en fait, ils avaient chopé un virus ailleurs. » L'information, elle est restée là. Donc, il faut réagir vite et il faut donner des alternatives. C'est pour ça que, par exemple, ça ne sert à rien de dire « Les terre-platistes sont stupides » ou « Les terre-platistes ont tort » ou « Nier le rôle de l'homme dans le changement climatique est une grosse bêtise. » Il faut savoir donner des alternatives. Et il faut savoir donner les outils pour se dire « Ah, cette autre information est beaucoup plus correcte. Elle a beaucoup plus de chances d'être correcte. Les sources sont beaucoup plus sérieuses. Les sources de cette autre information sont beaucoup plus solides, plus expertes, plus bienveillantes. Les contenus sont beaucoup plus consensuels. Les preuves à l'appui sont beaucoup plus solides. » Donc, au niveau éducatif, ne pas focaliser l'attention des élèves sur les fake news, le debunking et comment on reconnaît une fake news, mais comment on reconnaît les bonnes sources, les bonnes expertises, les bonnes preuves, les bons arguments. et dans la vie de tous les jours, nous aussi chercher vraiment à aller rechercher plutôt ça que jouer à l'écoute de toute information et avoir, malheureusement, c'est une question institutionnelle, mais des bons sites web, des bons communicateurs qui nous mettent à disposition beaucoup d'informations correctes pour faire le poids et qui nous apprennent à l'apprécier, à apprécier pourquoi cette information est meilleure que l'autre information qui est plus douteuse.
Est-ce qu'il n'y aurait pas, pour ces gens qui vont sur les sites de fake news, parce que là, ce n'est pas fondamentalement un problème de confiance, en fait. J'avais vu un philosophe qui, lui, disait que pour améliorer l'esprit critique, il faudrait augmenter la confiance des gens envers les scientifiques ou envers le gouvernement, envers les politiques. Et que dès que les gens commencent à se méfier des politiques parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont tous pourris, ou en tout cas qu'il y en a une partie qui l'est, donc ils vont généraliser et ils ne vont écouter que ceux qui ne sont pas justement ni du gouvernement, ni des scientifiques, et qui donc sont indépendants et qui sont plus proches de nous et en qui on peut avoir confiance.
Je pense qu'il y a aussi de ça, sûrement. Alors, le fait est que ce qu'on voit, par exemple, de ce groupe de personnes qui cherchent les fake news, les appartenant à QAnon, ces types de groupes, effectivement, ils ont aussi, c'est une corrélation, ils ont aussi une forte méfiance envers les pouvoirs, les autorités politiques ou épistémiques. Épistémiques, c'est-à-dire les scientifiques, parce que ces derniers sont considérés comme étant un peu les laquais des politiciens. Hein. Donc la première source après de méfiance est envers les politiciens. Je pense qu'il y a suffisamment de données autour en littérature pour dire que ça ne peut pas être le seul ingrédient, cette méfiance envers le politique, de cette adhésion à un certain type de groupe. Il y a aussi vraiment une motivation d'appartenance. C'est facile de... Et c'est vrai partout. On cherche à appartenir à des groupes sociaux. Le groupe social des méfiants envers l'autorité, le groupe social des méfiants de ceux qui croient à la Terre plate, émet des affirmations tellement fortes qu'une fois que tu dis « j'adhère », tu fais partie du groupe. Plus c'est gros, et plus ton adhésion et plus ta participation au groupe est garantie. Je veux dire une chose qui fâche. Ça a été vrai aussi, et ça a été étudié par exemple, c'est une hypothèse aussi, pour certains aspects d'adhésion à certaines croyances religieuses. Okay, c'est la même chose. C'est-à-dire, si tu crois vraiment que quelqu'un a pu marcher sur l'eau, ça va tellement contre les intuitions et les observations de tous les jours que si tu es prêt à renoncer à cette partie de rationalité pour dire oui, il a marché sur l'eau, viens, tu fais partie de mon groupe. C'est une sorte d'examen d'appartenance. C'est comme dans une... Et vraiment, je simplifie, hein, c'est juste un aspect des religions et je ne veux pas du tout dire que ça, c'est que les religions se réduisent à l'appartenance à un groupe social, il ne manquerait que ça. Mais il y a cet aspect dans tous les groupes sociaux, dans les institutions, les organisations. Te faire une sorte de test d'entrée. Et plus ce que je dis est gros, irrationnel, nous met contre d'autres, nous met en exergue du reste de la société, plus le fait, du coup, plus je peux te faire confiance que tu es vraiment un membre de mon groupe. Est-ce que tu es prêt à croire que Hillary Clinton, elle violait des enfants dans une pizzeria? Mince, si tu es prêt à dire oui, tu fais partie de mon groupe. Et donc, ça crée ce type de cohésion aussi et de partage d'informations. Alors que tu sais très bien que si tu vas partager la même information avec d'autres gens qui n'appartiennent pas à ton groupe, tu perds toute crédibilité. Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. C'est pour ça qu'en fait, on tient à notre réputation. Donc, on se limite à partager ces choses au sein de ce groupe d'adhésion à QAnon, par exemple, mais on ne va pas nécessairement la partager au tout venant, parce qu'on sait que par rapport au tout venant, on perd notre réputation de personne rationnelle ou de confiance, etc. Donc oui, il y a sûrement, je dirais, c'est vraiment des phénomènes très complexes. Et il y a sûrement une méfiance envers le politique, parce qu'on voit que quand il y a méfiance envers le politique, certaines croyances se multiplient, certaines fausses croyances se multiplient, on a l'impression qu'on nous ment, et du coup, on se pose beaucoup de questions. Plus on a... Prenez un cas exemplaire en France. En France, à un certain moment, le vaccin H1N1 avait acheté, dans tout le monde, avait été acheté en, en très très grande quantité parce qu'on craignait l'arrivée d'une grippe très mortifère, très contagieuse et très mortifère sur la base des données qui étaient prises par ailleurs. Ça a été une dépense très importante et on n'a pas nécessairement été, au niveau du politique, très transparent, à la limite, sur les raisons pour lesquelles on ne se sentait pas de prendre des risques et de ne pas acheter assez de vaccins, même s'il y avait la possibilité que cette grippe ne soit pas très grave. Mais à ce moment-là, si le politique n'est pas transparent, quand d'après la grippe, et heureusement, elle n'était pas grave, on dit « Ah, le politique nous a menti, il a dépensé tout notre argent pour une chose stupide ». Si tu n'es pas transparent sur les raisons de ton choix, après, le public devient méfiant. Et on a eu des retombées, par exemple, sur une montée en France de la méfiance envers la vaccination en général. Donc, c'est clair que la méfiance envers le politique ou l'autorité scientifique, etc., peut conduire à plus de méfiance envers une information correcte, plus de méfiance, plus de difficultés à se fier à des bonnes sources, plus du coup de tendance à dire ah, mais ils sont un peu tous pareils, ils nous mentent, etc. Et que donc il faut travailler sur le politique, sur sa transparence, sur sa capacité à expliquer aussi les raisons des choix pour éviter ce type de dérive. Que ce soit la seule raison pour laquelle on adhère à QAnon, aux conspirationnistes, à la Terre plate, franchement, je pense que non, on ne peut pas se limiter à ça. Il y a aussi d'autres éléments. Mais c'est un élément important, la confiance.
Est-ce que d'ailleurs les personnes politiques ont des formations en esprit critique ?
Ah, ça serait très bien, ça.
Mais non, ce n'est pas votre connaissance ? Non, ok. Parce que vous êtes quand même dans le conseil scientifique, donc à proximité éventuellement de certains dirigeants, mais non, il n'y a pas de...
C'est on pas est prévu. Dans un conseil scientifique de l'éducation nationale, ouais. Et je dois dire que depuis l'existence du conseil scientifique, le monde de l'éducation, à plusieurs niveaux, s'est beaucoup tourné vers le conseil scientifique, chose que je trouve être quand même un signe de bon exercice de l'esprit critique pour avoir... des connaissances plus établies sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas en éducation. Ce n'est pas toujours le cas. Et je dois dire que, mon Dieu, c'est vraiment le printemps, ça. À la limite, ça me fait presque plaisir. Mais dans le sens suivant, la décision politique ne découle pas des connaissances scientifiques. Il n'y a pas un écoulement direct de « on sait ça et donc on fait ça ». La décision politique, c'est une décision politique. Tu es élu, tu as tes électeurs, tu as tes raisons et beaucoup de considérations qui font que tu préfères une certaine ligne d'action à une autre et j'espère que ce soit concerté avec les citoyens, au moins elle devrait l'être. La connaissance scientifique, c'est un élément fondamental, l'expertise scientifique, c'est un élément fondamental, à mon avis, dans la prise de décision. Mais elle ne la dicte pas, elle y participe. Donc, je pense que voilà, il y a cette écoute de la part de beaucoup d'instances du ministère de l'Éducation nationale, la direction de l'éducation scolaire, les inspecteurs, l'inspectorat, je trouve, et les éducateurs. Mais il n'y a pas de cours d'esprit critique qui est délivré à tous les politiciens. Il y a eu en France. Des cours, entre guillemets, sur le changement climatique, par exemple, sur des questions où la prise de décision a d'autant plus de besoin d'éclairage scientifique. Et là, je trouve que c'est très intéressant de voir comment le politique, justement, se mélange, prend en compte ou ne prend pas en compte la décision, la connaissance scientifique, et prend en compte, ou malheureusement pour moi en compte aussi, la concertation populaire, les citoyens. Mais la décision politique, c'est quelque chose de très difficile.
on propose aux auditeurs, on mettra en lien sous ce podcast une petite vidéo sur la guillotine de Hume, oui, qui est exactement un des outils de l'esprit critique qui permet de faire cette différence entre ce qui est et ce qu'il faut. Et c'est, évidemment, il ne faudrait pas les mélanger. Les scientifiques ne sont pas là pour dire ce qu'il faut faire.
Mais justement, pour la formation, est-ce que les enseignants, au moins eux, sont formés à l'esprit critique? Ou est-ce que chacun ne connaît en fait que ce qui s'applique dans sa discipline sans savoir vraiment ce qui passe ailleurs et ni comment on fait le transfert dans la vie quotidienne?
Alors, malheureusement, je parle pour ce que je connais, c'est-à-dire pour la France. Les grandes priorités en ce moment de la formation ont été un peu mises ailleurs. C'est-à-dire, je dis malheureusement, mais ils ont été mises sur des fondamentaux, parce qu'on a constaté des manques importants du côté des fondamentaux en mathématiques et en français. Et du coup, les formations plus transversales, et il y a beaucoup de formations sur la laïcité, par exemple, mais des formations plus transversales sur l'esprit critique, on n'en a pas fait des masses. Et de nouveau, cette fois, je le dis vraiment malheureusement, le temps de formation, et ce n'est pas vrai qu'en France, on a des données internationales, il est réduit et il s'est réduit de plus en plus au niveau international, ce temps dédié vraiment à la formation des enseignants, non seulement initiale, mais continue. Les choses dont on vient de parler, il faut se mettre à jour tout le temps, savoir aider les élèves à reconnaître les bonnes sources ou avoir des connaissances mises à jour pour juger de la plausibilité d'une information qui circule. C'est quelque chose qui se met à jour tout le temps. Donc, malheureusement, la formation initiale peut donner certaines pratiques, mais ne peut pas tout faire. Il faut une formation continue qui soit vraiment à la hauteur. Et ce qui veut dire qu'il faut une formation continue qui soit vraiment aussi, massive, qu'il y en ait beaucoup, qu'il y en ait pour tout le monde, et possiblement qu'il y en ait, et je reviens sur quelque chose que je disais avant, qui met ensemble les enseignants d'un même établissement, par exemple, qui puissent se concerter ensemble, ou d'une même discipline à travers les établissements, qu'ils puissent de nouveau se concerter ensemble. Donc, une formation qui soit aussi basée sur des réseaux de pratiques à l'intérieur de l'établissement ou entre établissements, et qui permettent du coup cet accompagnement tout au long de sa professionnalité. Je ne vois pas ça en ce moment comme quelque chose qui est mis en place de façon systématique dans nos pays pour se limiter à nos pays. Et je trouve que c'est dommage, même si je comprends toutes les contraintes d'un système éducatif qui, bien sûr, doit faire avec beaucoup de priorités en même temps. Et c'est jamais facile après de faire des choix.
Parce que du coup, le système que vous préconisez avec ces gouttes d'esprit critique que chaque enseignant mettrait dans sa discipline, évidemment, il ne fonctionne que si tous les enseignants sont formés à l'épistémologie de leur discipline, plus à cette transversalité d'esprit critique. C'est ça, l'idée.
Ça
représente combien de temps de formation? Vous avez fait une préconisation en termes de
formation? Non, on n'a pas fait des préconisations parce qu'en fait, c'est assez variable par rapport à la formation initiale qu'on peut donner. Je pense que l'épistémologie de la discipline, par exemple, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir dans la formation initiale. On peut toujours y revenir et mettre à jour sur certaines méthodes nouvelles en histoire ou en sciences, bien sûr, mais ça reste quelque chose qu'on peut concentrer sur la formation initiale, alors que dans la formation continue, on peut petit à petit, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en main quand on devient enseignant les premières années, on peut petit à petit créer aussi ces pratiques, cette habitude de pratique de la collaboration. Ça s'apprend, ça aussi, ça ne vient pas tout seul. Et après, de la concertation sur ces gouttes d'esprit critique et des pratiques efficaces pour le mettre dans ces disciplines. Ça serait plutôt pour la formation continue. Et je pense qu'une formation que les enseignants suivraient tous les X années serait largement suffisante s'il y a une dynamique d'établissement. Là aussi, on n'a pas besoin nécessairement d'aller en formation chez des formateurs tous les ans. Une fois que quelqu'un est formé au sein de l'établissement, il peut transmettre aussi ce type de connaissances, de pratiques, ou la concerter au sein de l'établissement, si la dynamique de l'établissement le permet. Donc, il y a des manières de le faire à moindre coût en termes de temps de formation, s'il y a une dynamique de collaboration qui est, et du partage de pratiques qui, du coup, est instaurée.
Il n'y a pas d'école pilote?
Non.
Non. S'il y en a une, on se tiendra au courant, on ira voir les résultats.
Absolument, absolument, absolument.
Je crois qu'il faut absolument qu'on parle d'IA. Elena, je ne sais pas si vous allez en parler pendant le... Ben oui, ça devient inévitable. Je crois que vous allez en parler peut-être au colloque cet après-midi, mais... Ou pas. D'ailleurs, mais alors, dans ce cas-là, on aura l'exclusivité de ce que vous pouvez dire sur les liens entre IA et esprit critique.
Alors, je suis... Ah là, mince, je dois trouver le verre moitié plein.
Là, c'est plus dur, même avec le printemps.
Là, même avec le soleil, je regarde dehors le soleil. J'ai des appréhensions qui sont liées au fait que, ce que j'ai dit à un certain moment, on a un peu une tendance d'abord à inventer des solutions et après à chercher des questions pour ces solutions-là. Et ça, ça me fait peur. J'ai souvenir, parce que je ne suis pas jeune, par exemple, de l'arrivée massive des tableaux blancs numériques. Donc, on avait cette fantastique technologie et il fallait inventer des usages pour ça. Et ça m'a toujours paru très contre-intuitif qu'on ne part pas d'un besoin où quelqu'un dit « Mais moi, j'ai vraiment besoin d'un truc sur lequel je peux écrire, effacer, projeter, mettre ceci, s'il vous plaît, inventez-le. » Non, il fallait s'inventer après des choses. Et franchement, le succès des tableaux blancs numériques n'a pas été très uniforme parce que justement, les conditions techniques autour n'étaient pas nécessairement remplies. On n'avait pas Internet dans toutes les salles, je parle de la France, où on ne pouvait pas avoir le technicien qui vienne réparer ton tableau quand tu en as besoin. Ça a été vrai pour les tablettes. Ça a été vrai pour beaucoup de technologies qu'on a beaucoup, pour lesquelles on a fait beaucoup de promotions sans avoir les conditions au contexte, y compris économiques, pour garantir leur utilisation efficace dans les classes et sans qu'on sache vraiment quoi faire et qu'on soit un peu à la course à s'inventer des bonnes utilisations. Donc ça, c'est ma préoccupation numéro un avec l'IA. C'est celle qu'on la propose aux enseignants. Après, je viendrai sur les élèves. C'est celle de dire il faut, c'est tellement miraculeux, c'est tellement riche, ça permet de faire tellement de choses, il faut trouver des manières de l'utiliser. On peut aussi, des fois, attendre. C'est une bonne vertu de mettre une pause et de dire, sans avoir peur d'être dépassé par la vie, de dire « attendons de voir ce que ça donne, attendons aussi de comprendre quels sont les risques majeurs, les risques qu'on est disposé à prendre et ceux qu'on n'est pas disposé à prendre au niveau des emplois, questions politiques plus générales, etc. » Donc, moi, je suis toujours lente. Je suis plutôt pour une stratégie de la tortue. Il vaut mieux arriver en retard et apprendre des erreurs des autres qu'arriver en premier et être ceux qui font les erreurs. Donc voilà, stratégie de la tortue. Bien sûr, il y a l'utilisation que les élèves en font déjà parce que là, on a du mal à leur dire « mets-toi en pause ». Eux, ils voient une utilisation, eux, ils voient un intérêt, et eux, ils utilisent. Donc moi, j'ai mes étudiants, par exemple, de master, donc qui ont 22 ans, 23 ans, qui utilisent effectivement la ChatGPT pour certains devoirs. Tu le vois très bien, tu vois le devoir écrit d'une certaine manière, écrit d'une autre manière. Donc on en a parlé en classe. On en a parlé, je n'ai pas interdit ni demandé d'utiliser. J'ai dit juste que moi, je ne suis pas très intéressée à un devoir écrit qui soit parfaitement ficelé. Ça m'intéresse de voir des idées. Si elles sont un peu mal écrites, éventuellement, je t'appelle et on en reparle pour que tu me l'expliques parce que je n'ai pas bien compris ce que je te voulais dire. Mais j'ai une préférence pour ça que sur une écriture particulièrement bien affinée. Ils sont conscients, ils sont grands, ils sont conscients aussi du fait que, par exemple, l'IA a encore... En ce moment, ça pourra changer dans 2 ans, beaucoup de limites quand tu l'utilises de travers, c'est-à-dire L'IA, c'est une machine statistique. Mes étudiants de 23 ans le savent. Les élèves, ils le savent. Les élèves de primaire, de secondaire, ne le savent pas nécessairement. C'est une machine statistique qui, donc, n'a aucun filtre sémantique. Ça bouffe des morceaux des groupes de lettres et ça les recombine. Donc, aucune sélection sémantique, ça fait que des fois, ça t'invente des revues scientifiques qui n'existent pas, des articles scientifiques qui n'existent pas, ou ça te colle une citation avec le mauvais nom de la citation. Parce que c'est une machine statistique, elle va regarder des associations. Donc il faut savoir ça, ça ne s'utilise pas comme Wikipédia, ça ne s'utilise pas comme Google, ça n'a pas le même type de mécanisme derrière. Mes étudiants de 23 ans le savent, donc ils ne l'utilisent pas de cette manière-là. Si les étudiants plus jeunes ne le savent pas, je pense qu'il est indispensable qu'ils le sachent. Mm-hmm. Ça fait partie de cette haute formation des enseignants continue au monde qui change sur les sources d'information à transmettre aux élèves. Une source, elle est faite comme ci et comme ça. Une source cherchée dans une IA, dans ChatGPT, a ces caractéristiques-là. Et va produire ce type d'hallucination, probablement c'est la vaccination anticipatrice, le pre-bunking, elle va faire des erreurs de ce genre. Réfléchir quand tu en as vraiment besoin parce que tu veux produire un meilleur paragraphe, ça ne sera pas nécessairement une bonne réponse dans certains d'autres cas. Ça nous impose aussi, et je pense que c'est sain, en tant qu'enseignant, de se poser la question: qu'est-ce que je veux vraiment évaluer chez mes élèves? Qu'est-ce que je veux vraiment qu'ils apprennent? Et si je veux qu'ils apprennent un certain type de choses, comment je l'évalue? Et puisque je ne veux pas évaluer s'ils savent utiliser l'IA ou s'ils savent écrire un paragraphe en anglais sans faute, oui, dans un autre cours, oui, mais pas par exemple dans mes cours, ben je vais essayer de leur proposer un type de questionnement, un type d'évaluation sur laquelle, si j'utilise l'IA ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. Je vais quand même pouvoir voir si la connaissance que je voulais faire apprendre, le type de raisonnement que je voulais voir développer, il est là ou pas. Et c'est à moi, du coup, de me donner ces armes-là en tant qu'enseignante. Donc, je dirais, sans panique, d'un côté, faire connaître, bien sûr, l'IA est là. J'ai beau avoir la stratégie de la tortue en ce qui me concerne, moi, je ne l'utilise pas. Mais je sais que mes étudiants ou nos élèves les utilisent, les former à reconnaître comment sont produites les informations qui sortent de l'IA, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les conséquences économiques de l'utilisation de l'IA, combien d'eau consomment les serveurs de Google maintenant que Google utilise des machines IA, quelle est la conséquence de cela sur notre planète, combien d'énergie il faudra dans 20 ans si on continue comme ça à faire grandir l'IA. Ça, c'est toutes des connaissances auxquelles peut-être on ne pense pas, mais sur lesquelles ça serait bien que nous et nos élèves, on soit au courant. Elles sont, quand on l'utilise, qu'est-ce que cela apporte? On calcule combien ça coûte une banane en termes de CO2.
C'est une référence à une conversation avant l'entretien de ce podcast.
mais il faudrait se poser aussi la question de combien ça coûte, du coup, effectivement, cette utilisation de l'IA en termes de CO2 émise. Quel est son rôle sur la planète? Est-ce que, du coup, j'ai envie de l'utiliser tout le temps ou pas? Ou de pousser son utilisation ou pas? Après, il y a le troisième problème avec l'IA. Donc, après, du côté de l'enseignant, moi, je n'ai pas envie de l'utiliser parce que j'ai envie de poser mes questions et parce que j'ai envie d'être lente. Mais je comprends aussi le besoin d'aller vite et de produire vite des choses quand on est sous pression. Moi, j'ai peur que si on me demande de produire de plus en plus vite et du coup d'utiliser l'IA pour le faire, on va produire trop de choses. C'est ce qu'on disait aussi de cet engouement informationnel. On a déjà tellement de choses autour de nous. Moi, je n'ai pas besoin de me presser à produire plus. J'ai besoin de produire moins. J'écris déjà trop. Je produis déjà trop de questions, trop de trucs pour mes élèves. Moins, moins, moins. Et ça sera mieux. Un monde où on produit moins, il va être un monde beaucoup plus calme et on se retourne beaucoup mieux dans l'information. Donc, ça, c'est pour nous. Mais je disais, il y a le troisième problème, c'est-à-dire que le monde, il ne va pas nécessairement nous attendre. Et du coup, il y a aussi à préparer les élèves par rapport on a parlé longuement, mais les fausses informations ou les manipulations de l'information qui sont produites par l'IA et quelle est effectivement leur signification dans le monde d'aujourd'hui. Et là aussi, moi, j'ai une position qui est pour l'instant, très prête à changer, un peu plus contre-intuitive, et c'est de dire, faire connaître l'IA et comment les manipulations sont faites, oui, mais pas trop se focaliser de nouveau sur ça. Pas donner aux élèves cette impression d'être encerclé. Voilà, le soleil qui retourne. et on est sous la menace, et on ne pourra jamais reconnaître le vrai du faux, et on perdra tout repère, et le monde est horrible, etc. Non, pitié, mais pitié! Non, un peu d'optimisme pour ces jeunes qui grandissent dans un monde où il faut leur apprendre, et je répète, à identifier la bonne information. Leur faire passer 3 heures à défaire une fake news produite par l'IA, ça peut être un jeu qu'on fait de temps en temps, une fois, pour jouer. Mais de toute manière, il y aura un moment où on sera dépassé. Gérald Bronner, il parle très bien du millefeuille argumentatif des, justement, fausses informations. Vous n'allez jamais le défaire complètement. Ça sera une perte de temps de passer 3 heures par jour à défaire tous les arguments en faveur d'une certaine fausse information, surtout s'il y a plein d'images produites par IA très bien ficelées qui vont à son appui. Il faut un peu se rendre au fait que, oui, de temps en temps, ça nous paraîtra vrai, on y tombera, mais qu'à côté, nous, on saura, au besoin, chercher des informations fiables. On sera exposé à des informations non fiables. Elles seront super sexy, elles seront bien fabriquées, elles auront des images IA à l'appui qui nous feront vraiment battre le cœur, mais nous, on saura les regarder, dire OK, et après, dans notre recherche d'informations, savoir dire, ah ben attends, mais qui sont les bonnes sources dans ce domaine-là? C'est le GIEC pour les questions climatiques? Mais moi, je vais voir sur le site du GIEC pour savoir si le réchauffement climatique est à ce stade-là ou à ce stade-là. Donc, je saurai toujours me tourner vers la recherche de bonnes sources d'informations, vers la recherche de bonnes connaissances. Et je laisserai un peu exister ces fake informations, un peu comme des mauvais champignons dans la forêt. Quand on va en forêt, ce qui nous intéresse, c'est surtout savoir reconnaître les porcini. Comment on dit les porcini? Les bolets. Bien sûr, j'ai besoin de savoir que si c'est rouge avec des points blancs, je ne veux pas y toucher. Mais en même temps, je le laisse là dans la forêt, il continuera à exister et moi, je me mettrai à la recherche systématique des bolets sur la base des caractéristiques des bolets et des bonnes caractéristiques des bolets. C'est un peu la même chose avec l'information. Donc, l'IA va fabriquer des champignons de plus en plus sexy et mauvais et on va les laisser là, mais on va savoir comment chercher les bons bolets, les bonnes informations.
On va savoir si on met nos gouttes d'esprit critique dans tous les cours et donc peut-être encore plus aujourd'hui à l'ère de l'IA, l'importance de mettre ces cours d'esprit critique.
Absolument, ouais. Absolument. Ça, sans doute, malheureusement, mais c'était vrai aussi avant. Ça devient juste plus difficile et plus inutile, à mon avis, de passer longtemps à défaire le millefeuille argumentatif parce que ça devient trop bon.
Les outils de l'esprit critique sont plus efficaces que des outils de debunking.
Ouais.
D'accord. On arrive un peu à la fin de ce podcast. Peut-être pour faire une ouverture pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de prolonger toutes ces questions-là, on avait prévu de vous interroger un peu sur cette initiative lancée par Gérald Bronner, dont vous avez parlé aussi, et qui est avec vous membre de ce conseil scientifique pour l'éducation, enfin qu'il était. Donc il a lancé une université populaire de l'esprit critique. Je crois que vous y interviendrez prochainement.
Oui.
Je ne sais pas si vous voulez nous en dire deux mots, et puis peut-être nous dire pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'on la suive.
Je pense que c'est...
S'il faut qu'on la suive.
Je pense que c'est une super initiative. Du coup, on est tous bénévoles là-dedans, donc dans cette initiative. Donc, on s'y est lancé avec le cœur. Donc, je ne peux pas vous dire non, ne la suivez pas. c'est évident, on y croit. Et l'idée, c'est qu'on a beaucoup parlé d'éducation et des élèves et d'enseignants. pour moi, les enseignants sont nos experts de proximité sur ces questions-là et sur beaucoup d'autres questions. C'est un peu comme le médecin. Si vous avez un doute sur des choses, votre médecin, c'est votre expert à côté sur le territoire, l'enseignant aussi. Mais bon, on a, à un certain moment, on quitte l'école, on n'a pas d'enfants qui sont à l'école, on ne peut pas aller chez notre expert de proximité qui est l'enseignant. Comment on se forme toute la vie? On a dit, ce monde change, ses sources changent, les contenus changent. On a besoin tous, je pense, d'avoir cette, au moins cette possibilité d'avoir accès à cette connaissance et à ces outils de construction de nos connaissances, de sélection de l'information. Les universités populaires sont des très bons lieux pour faire cela. Donc l'idée, c'est comment donner à tout le monde accès à ce dont on a parlé dans cette interview, même si vous n'êtes plus à l'école, mais il y a toujours des lieux populaires où tout le monde peut aller se former, s'informer, sans que ce soit réservé à une élite. Il y a toujours, pour des élites, il y a toujours la manière de s'informer. Ces lieux-là, il se veut un moment où voilà, on peut soi-même se dire bah, « je m'outille », pas pour me protéger du monde mauvais, mais pour mieux utiliser toutes ces belles connaissances que ce beau monde continue à produire et me permettre de prendre des meilleures décisions, d'être plus réflexif. Je pense que Gérald, c'est possible qu'il dirait aussi que ça va vous servir à survivre au dîner de famille où on va dire des choses insupportables que vous allez avoir la possibilité un peu aussi de devenir vous-même, que nous tous on soit un tout petit peu ces petits experts de proximité pour nos proches. Mm-hmm. Se former dans ce domaine-là, je pense, a aussi un côté altruiste. Ça nous permet d'être des relais. Plus on a des relais, plus, par exemple, les fausses informations, la désinformation deviennent limitées. Parce qu'il y a plus de gens bien informés, capables de bien s'informer, qui vont partager l'information, qui vont partager leurs outils pour évaluer l'information. Donc c'est un tout petit peu aussi, à la fois un service, mais aussi pour chacun de nous, un devoir citoyen, de faire cet effort, de se former et après de communiquer autour de nous pour être des machines voilà, d'amélioration du monde. On a été peut-être trop pessimiste à dire une fois que les élèves ils arrivent au bac, après c'est trop tard, c'est jamais trop tard. Mmh. Justement, si on continue chacun de nous à se former dans ce sens-là, chacun de nous devient un relais et un filtre d'informations et un multiplicateur de partage d'informations correctes, parce qu'on sait comment le faire. Et ça va faire vraiment du bien à cet océan d'informations, d'avoir plus de gens bien informés qui vont y contribuer et mettre en minorité les fausses informations, la désinformation.
Merci. Je ne sais pas si Agnès, tu veux encore...
Non, moi, je me demandais une dernière chose, c'était est-ce qu'il ne faudrait pas faire attention aussi à ce que nous, on pense? C'est-à-dire, parfois, on se prend pour des experts, et puis, en réalité, il faudrait aussi se critiquer soi-même et vérifier si, en fait, les gens en face de nous n'ont pas des bons arguments aussi.
Pour moi, c'est un point essentiel hein, de ce processus d'évaluation de l'information au travers lequel on a défini l'esprit critique. Bien sûr, évaluer l'information qui m'est donnée, mais à chaque fois, et on l'a mis bien dans la checklist qu'on a proposée, je me pose la question, mais moi j'en sais assez pour me prononcer sur cela. Et c'est pas facile de répondre à cette question, parce qu'on a un peu une courbe inversée, hein, c'est un peu une corrélation négative entre combien on sait et combien on est modeste par rapport à ce qu'on sait. C'est-à-dire quand on sait très peu, on a quand même l'impression de savoir. Et c'est normal, parce que tu ne vois pas toute la complexité d'un domaine de connaissances. Tu en as quelques bribes, tu as l'impression que tu maîtrises. Tu vas un peu plus loin et tu te dis, oh mon Dieu, mais non, mais il y a tout ça à connaître avant d'être expert. Donc, c'est vrai, par exemple, quand on dit des scientifiques qui se prononcent sur des domaines à côté, mais de plus en plus, le domaine à côté sur lequel tu n'es plus expert devient de plus en plus proche, parce que la spécialisation des sciences fait que je suis expert en physique nucléaire, tu me poses une question déjà sur la physique des solides, je peux avoir quelques difficultés si c'est très poussé à te répondre. Donc oui, toujours se poser cette question, et avec cette modestie de dire, est-ce que je le connais assez, ce domaine, pour me prononcer ? Ça fait partie de notre jugement de confiance à la fin, de l'esprit critique, de prendre en compte, et aussi de prendre en compte nos préférences et nos biais, chose qui n'est pas facile. Donc, vous le disiez au début, quand même les connaître. C'est une autre petite forme de vaccination, savoir ce qui va me pousser à préférer un certain type d'information sur un autre. J'aurais tendance, moi, à préférer une information plus optimiste, une manière de décrire les choses plus optimiste, lire plus dans cette direction. J'ai tendance à préférer des choses qui sont produites par des groupes que je sens proches d'un point de vue social ou même politique. Donc, reconnaître cela, que j'ai sûrement, quand j'évalue une nouvelle information, même scientifique, peut-être j'ai un petit réflexe d'anticiper les conséquences de ce type de connaissances s'utiliser à mauvais escient sur une décision politique qui me tient à cœur. Donc, je cherche à prendre en compte tout cela, mais je renonce aussi à la perfection. C'est-à-dire que je pense que l'esprit critique n'est pas une question individuelle, une question collective. Donc moi, je continuerai à faire plein d'erreurs, mais plein, et avoir des préférences, et à être biaisée dans un certain domaine. C'est parce qu'on s'aimait au collectif et que vos préférences à vous ne sont pas les mêmes que les miennes, les vôtres encore, je me tourne vers les deux interlocutrices, ne seront pas les mêmes encore que les nôtres, que du coup, dans ce dialogue et cette confrontation, on va pouvoir arriver à une décision qui soit la moins susceptible de répondre à un seul biais et à une seule préférence que possible. C'est pourquoi aussi, quand on doit prendre des décisions ou évaluer des informations, avoir un panel de gens qui sont très différents est très intéressant. Parce que du coup, on multiplie les perspectives, les biais, les points de vue. Je ne dis pas qu'on les annule, mais quand même, on les neutralise un peu, celles qui sont trop d'un côté. Un groupe très homogène qui va analyser une information ou prendre une décision, verra ses biais non seulement mis en avant, mais renforcés, parce qu'on va se renforcer entre nous, et on a trop raison là-dedans. Si on se confronte et qu'on se met avec des gens très différents, avec des priorités très différentes, qu'on est capable de comprendre pourquoi l'autre dit une certaine chose, de quelles sont les croyances, les valeurs aussi qui vont l'amener à dire une certaine chose, ça va nous permettre collectivement de mettre un peu nos biais sous contrôle. Ça a été pour moi l'un des grands avantages, des grandes merveilles de la science. Et la science a fait ça. On se met ensemble, on se base sur des méthodes, on se met d'accord effectivement que certaines méthodes vont être plus à même de contrôler nos biais, parce que je sais que je vais avoir la préférence pour faire ça, mais du coup, je vais créer un groupe de contrôle qui fera autre chose. Et je ne vais pas regarder ce qu'ils font et je vais prendre des données d'une certaine manière. Je vais m'empêcher de regarder. Mais même avec ça, même avec ces méthodes, on sait que je peux quand même jouer un peu dans l'interprétation des données. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je me mets avec d'autres et avec d'autres et avec d'autres. Et je cherche d'autres qui viennent d'autres laboratoires, qui veulent me battre, qui veulent gagner la course par rapport à moi. Et après, je fais relire à d'autres qui n'ont pas mes mêmes intérêts, qui ont intérêt à me critiquer, qui ont intérêt à me mettre en difficulté. Et c'est cette dynamique intersubjective qui après fait que la science arrive à contrôler des biais que nous, individus, on va inévitablement avoir. Et quand je vois, par exemple, le GIEC, le grand organisme de production de rapports de synthèse autour des questions climatiques, l'un de ses points forts, pour moi incroyable, c'est cette volonté de rassembler des auteurs et des rélecteurs qui sont non seulement extrêmement nombreux, excessivement nombreux, il peut y avoir 300, 400 rélecteurs, mais très divers. Tous les pays, toutes les conditions, tous les intérêts différents, ils seront là. Et là, et on peut aller encore plus loin, on pourra aller encore plus loin, on peut toujours aller encore plus loin. Là, je me dis, OK, mais alerte, confiance, ils sont vraiment au vert. Parce qu'on a tout mis en place pour contrôler ces biais dont on parlait, même les plus cachés, même les plus, ceux qui vont ressortir que dans des situations particulières. Ben là, on a tout fait pour les contrôler. Donc, j'ai cet espoir d'un esprit critique collectif et d'enlever la responsabilité à l'individu de tout devoir gérer, de tout devoir faire tout seul, de se devoir faire son information, de se devoir protéger. Agissons collectivement et cherchons à avoir des collectifs aussi divers que possible, avec cette ouverture à écouter les autres sans leur sauter à la gorge, chercher à comprendre d'où viennent leurs positions, leurs valeurs. Et du coup, en se mettant ensemble, je pense que cet esprit critique collectif, et la science en est une démonstration, est plus efficace que l'esprit critique individuel.
Il ne suffit pas de penser par soi-même.
Non.
Je propose qu'on s'arrête sur ce beau message d'invitation à un esprit critique collectif qui pousse à la tolérance, à essayer de comprendre l'autre et à essayer d'être aussi, de constituer des groupes aussi variés que possible avec une diversité pour mélanger les points de vue. Est-ce que vous voulez un dernier message ou ça vous va comme ça, terminer comme ça?
Je pense que c'est me paraît bien aussi. Le message de la fin, ouais.
Ça va assez bien. Ça reste dans l'esprit optimiste du printemps. Service, merci école, beaucoup, Elena Pasquinelli.
Semcast.
Votre rendez-vous numérique et pédagogique.